Le comte avait une figure extrêmement rouge, mais d'un rouge ardent sur lequel se détachaient quelques portions enflammées et que sa chevelure entièrement blanche mettait en relief. À d'autres qu'à des jeunes gens, ce teint eût révélé l'inflammation constante du sang produite par d'immenses travaux. Ces bourgeons nuisaient tellement à l'air noble du comte qu'il fallait un examen attentif pour retrouver dans ses yeux verts la finesse du magistrat, la profondeur du politique et la science du législateur. La figure était plate, le nez semblait avoir été déprimé. Le chapeau cachait la grâce et la beauté du front. Enfin, il y avait de quoi faire rire cette jeunesse insouciante dans le bizarre contraste d'une chevelure d'un blanc d'argent avec des sourcils gros, touffus, restés noirs. Le comte, qui portait une longue redingote bleue, boutonnée militairement jusqu'en haut, avait une cravate blanche autour du cou, du coton dans les oreilles et un col de chemise assez ample qui dessinait sur chaque joue un carré blanc. Son pantalon noir enveloppait ses bottes, dont le bout paraissait à peine. Il n'avait point de décoration à sa boutonnière, enfin ses gants de daim lui cachaient les mains. Certes, pour des jeunes gens, rien ne trahissait dans cet homme un pair de France, un des hommes les plus utiles au pays. Le père Léger n'avait jamais vu le comte, qui, de son côté, ne le connaissait que de nom. Si le comte, en montant en voiture, y jeta le perspicace coup d'œil qui venait de choquer Oscar et Georges, il y cherchait le clerc de son notaire pour lui recommander le plus profond silence dans le cas où il eût été forcé, comme lui, de prendre la voiture à Pierre Rotin. Mais, rassuré par la tournure d'Oscar, par celle du père Léger et surtout par l'air quasi-militaire, par les moustaches et les façons de chevalier à l'industrie qui distinguait Georges, il pensa que son billet était arrivé sans doute à temps chez maître Alexandre Crotta. Père Léger, dit Pierrotin en atteignant la rue de Montée du Faubourg Saint-Denis à la rue de la Fidélité, descendons, hein? Oh, je descends aussi, dit le comte en entendant ce nom. Il faut soulager vos chevaux. Ah, si nous allons ainsi, nous ferons 14 lieues en 15 jours, s'écria Georges. Est-ce ma faute, dit Pierrotin, un voyageur veut descendre. Dis Louis pour toi, si tu me gardes fidèlement le secret que je t'ai demandé, dit à voix basse le comte en prenant Pierrotin par le bras. Oh, mais 1000 francs, se dit Pierrotin lui-même après avoir fait à M. de Serlizy un clignement d'yeux qui signifiait « Comptez sur moi ». Oscar et Georges restèrent dans la voiture. Écoutez, Pierrotin, puisque Pierrotin il y a, s'écria Georges, quand après la montée les voyageurs furent replacés. « Si vous devez ne pas aller mieux que cela, dites-le. Je paye ma place et je prends un billet à bidet à Saint-Denis, car j'ai des affaires importantes qui seraient compromises par un retard. »« Oh, il ira bien, » répondit le père Léger. « Et d'ailleurs, la route n'est pas large. »« Mais jamais je ne suis plus d'une demi-heure en retard, » répliqua Pierrotin. « Enfin, vous ne brouettez pas le pape, n'est-ce pas ?» alors dit Georges. « Marchez !»« Vous ne devez pas de préférence, si vous craignez de trop cahoter, monsieur, » dit Mistigris en montrant le comte. « Ça n'est pas bien. » »« Tous les voyageurs sont égaux devant le coucou comme les Français devant la charte, » dit Georges. « Soyez tranquille, dit le père Léger, nous arriverons bien à la chapelle avant midi. » La chapelle est le village contigu à la barrière Saint-Denis. Tous ceux qui ont voyagé savent que les personnes réunies par le hasard dans une voiture ne se mettent pas immédiatement en rapport, et à moins de circonstances rares, elles ne causent qu'après avoir fait un peu de chemin. Ce temps de silence est pris aussi bien par un examen mutuel que par la prise de possession de la place où l'on se trouve. Les âmes ont tout autant besoin que le corps de se rasseoir. quand chacun croit avoir pénétré l'âge vrai, la profession, le caractère de ses compagnons, le plus causeur commence alors, et la conversation s'engage avec d'autant plus de chaleur que tout le monde a senti le besoin d'embellir le voyage et d'en charmer les ennuis. Les choses se passent ainsi dans les voitures françaises. Chez les autres nations, les mœurs sont bien différentes. Les Anglais mettent leur orgueil à ne pas desserrer les dents. L'Allemand est triste en voiture, et les Italiens sont trop prudents pour causer. Les Espagnols n'ont plus guère de diligence, et les Russes n'ont point de route. On ne s'amuse donc que dans les lourdes voitures de France, dans ce pays si babillard, si indiscret, où tout le monde est empressé de rire et de montrer son esprit, où la raillerie anime tout, depuis les misères des basses classes jusqu'aux graves intérêts des gros bourgeois. La police y bride d'ailleurs peu la langue, et la Tribune y a mis la discussion à la mode. Quand un jeune homme de 22 ans, comme celui qui se cachait sous le nom de Georges, a de l'esprit, il est excessivement porté, surtout dans la situation présente, à en abuser. D'abord, Georges eut bientôt décrété qu'il était l'être supérieur de cette réunion. Il vit un manufacturier de second ordre dans le comte qu'il prit pour un coutelier, un gringalet dans le garçon minable accompagné de Miss Tigri, un petit niais dans Oscar et dans le gros fermier une excellente nature à mystifier. Après avoir ainsi pris ses mesures, il résolut de s'amuser aux dépens de ses compagnons de voyage. « Voyons, se dit-il, pendant que le coucou de Pierrotin descendait de la chapelle pour s'élancer sur la plaine Saint-Denis, me ferais-je passer pour être Étienne ou Béranger ? Non, ces cocos-là sont des gens à ne connaître ni l'un ni l'autre. Carbonaro, diable, je pourrais me faire empoigner. Et si j'étais un fils du maréchal Ney ? Bah, qu'est-ce que je leur dirais ? L'exécution de mon père, ça serait pas drôle. Et si je revenais du champ d'asile ? Ils pourraient me prendre pour un espion, ils se défieraient de moi. Soyons un prince russe déguisé. Je vais leur faire avaler de fameux détails sur l'empereur Alexandre. Et si je prétendais être cousin, professeur de philosophie, comme je pourrais les entortiller. Non, le gringalet à chevelure ébouriffée m'a l'air d'avoir traîné ses guêtres au cours de la Sorbonne. Mais pourquoi n'ai-je pas songé plutôt à les faire aller ? J'imite si bien les Anglais. Je me serais posé en Lord Byron, voyageant incognito. Sacristi, j'ai manqué mon coup. Être fils du bourreau, voilà une crâne idée pour se faire de la place à déjeuner. Oh, bon, j'aurais commandé les troupes d'Ali, Pacha de Jalina. Pendant ce monologue, la voiture roulait dans les flots de poussière qui s'élève incessamment des bas-côtés de cette route si battue. « Quelle poussière !» dit Mistigri. « Henri IV est mort !» lui repartit vivement son compagnon. « Encore, si tu disais qu'elle sent la vanille, tu émettrais une opinion nouvelle. »« Vous croyez rire ?» répondit Mistigri. « Eh bien, ça rappelle par moments la vanille. » « Dans le Levant !» dit Georges en voulant entamer une comme-histoire. « Dans le vent ?» fit le maître à Mistigri en interrompant Georges. « Non, je lis dans le vent, d'où je reviens, » reprit Georges. « La poussière sent très bon, mais ici elle ne sent quelque chose que quand il se rencontre un dépôt de poudrette comme celui-ci. « Monsieur vient du Levant ?» dit Mistigri d'un air narquois. « Tu vois bien que monsieur est si fatigué qu'il s'est mis sur le ponant, » lui répondit son maître. « Vous n'êtes pas très bruni par le soleil, » dit Mistigri. Oh, je sors de mon lit après une maladie de 3 mois dont le germe était, disent les médecins, une peste rentrée. Ah, vous avez eu la peste? S'écria le comte en faisant un geste d'effroi. Pierrotin, arrêtez! Allez, Pierrotin, répondit Mistigri, on vous dit qu'elle est rentrée, la peste, dit-il en interpellant Monsieur de Sérisy. C'est une peste qui passe en conversation. Une peste de celle dont on dit peste, s'écria le maître. Ou peste du soit du bourgeois, répondit Mistigri. Mistigri, reprit le maître, je vous mets à pied si vous vous faites des affaires. Ainsi, dit-il en se tournant vers Georges, monsieur est allé dans l'Orient. Oui, monsieur, d'abord en Égypte et puis en Grèce, où j'ai servi Ali Pacha, Pacha de Janina, avec qui j'ai eu une terrible prise de bec. On ne résiste pas à ces climats-là. Aussi, les émotions de tout genre que donne la vie orientale m'ont-elles désorganisé le foie. Ah, vous avez servi, dit le gros fermier. Quel âge avez-vous donc? J'ai 29 ans, reprit Georges, que tous les voyageurs regardèrent. À 18 ans, je suis parti simple soldat pour la fameuse campagne de 1813, mais je n'ai vu que le combat d'Hanau où j'ai gagné le grade de sergent-major. En France, à Montereau, je fus nommé sous-lieutenant et j'ai été décoré par. Il n'y a pas de mouchard, hein, par l'empereur. Vous êtes décoré, dit Oscar, et vous ne portez pas la croix? La croix de ceci, bonsoir. Quel est d'ailleurs l'homme comme il faut qui porte ses décorations en voyage? Voilà, monsieur, dit-il en montrant le comte de Sérisy. Je parie tout ce que vous voudrez. Parier tout ce qu'on voudra, c'est en France une manière de ne rien parier du tout, dit le maître à Mistigri. Je parie tout ce que vous voudrez, reprit Georges, avec affectation, que ce monsieur est couvert de crachats. J'ai, répondit en riant le comte de Sérisy, celui de Grand-Croix de la Légion d'honneur, celui de Saint-André de Russie, celui de l'Aigle de Prusse, celui de l'Annonciade de Sardaigne et la Toison d'Or. Oh, excusez du peu, dit Mistigri, et tout, ça va en coucou. Ah, il va bien, le bonhomme couleur de brique, dit Georges à l'oreille d'Oscar. Qu'est-ce que je vous disais, repartit à Beauvois. Moi, je ne le cache pas, j'adore l'empereur. Je l'ai servi, dit le comte. Quel homme, n'est-ce pas? S'écria Georges. Ah, un homme à qui j'ai bien des obligations, répondit le comte d'un air niais, très bien joué. Vos croix, dit Mistigri. Et combien il prenait de tabac, reprit Monsieur de Sérisy. Oh, il le prenait dans ses poches à même, dit Georges. On m'a dit cela, demanda le père Léger d'un air presque incrédule. Mais bien plus, il chiquait et fumait, reprit Georges. Je l'ai vu fumant, et d'une drôle de manière à Waterloo, quand le maréchal Soult l'a pris à bras-le-corps et l'a jeté dans sa voiture au moment où il allait empoigner un fusil et aller charger les Anglais. Vous étiez à Waterloo, dit Oscar, dont les yeux s'écarquillaient. Oui, jeune homme, j'ai fait la campagne de 1815. J'étais capitaine à Mont-Saint-Jean et je me suis retiré sur la Loire quand on nous a licenciés. Ma foi, la France me dégoûtait et je n'ai pas pu y tenir. Non, je me serais fait empoigner aussi. Me suis-je en allé avec 2 ou 3 lurons, Selves, Besson et autres, qui sont à cette heure en Égypte au service du Pacha Mohammed, un drôle de corps, allez. Jadis, simple marchand de tabac à la cavale, il est en train de se faire prince souverain. Vous l'avez vu dans le tableau d'Horace Vernet, le massacre des Mamelouks. Quel bel homme! Moi, je n'ai pas voulu quitter la religion de mes pères et embrasser l'islamisme, d'autant plus que l'abjuration exige une opération chirurgicale dans laquelle je ne me soucie pas du tout. Puis personne n'estime un renégat, alors. Si on m'avait offert 100 000 francs de rente, peut-être, et encore. Non, le pacha me fit donner 1 000 talaris de gratification. Qu'est-ce que c'est? Dit Oscar, qui écoutait Georges de toutes ses oreilles. Oh, pas grand-chose. Le talari, c'est comme qui dirait une pièce de 100 sous. Et ma foi, je n'ai pas gagné la rente des vices que j'ai contractée dans ce tonnerre de Dieu de pays-là. Si toutefois c'est un pays, je ne puis plus maintenant me passer de fumer le narguilé 2 fois par jour et c'est cher. Et comment est donc l'Égypte? Demanda Monsieur de Sérisy. Oh, l'Égypte, c'est tout sable, répondit Georges sans se déferrer. Il n'y a de vert que la vallée du Nil. Tracer une ligne verte sur une feuille de papier jaune, voilà l'Égypte. Par exemple, les Égyptiens, les fellahs, ont sur nous un avantage. Il n'y a point de gendarmes. Oh, vous feriez toute l'Égypte, vous n'en verriez pas un. Je suppose qu'il y a beaucoup d'Égyptiens, dit Mistigris. Pas tant que vous le croyez, reprit Georges. Il y a beaucoup plus d'Abyssins, de Giaours, de Véchabites, de Bédouins et de Coptes. Enfin, tous ces animaux-là sont si peu divertissants que je me suis trouvé très heureux de m'embarquer sur un polacre génoise qui devait aller charger aux îles Ioniennes de la poudre et des munitions pour Ali de Tébélen. Vous savez, les Anglais vendent de la poudre et des munitions à tout le monde, aux Turcs, aux Grecs, au diable, si le diable avait de l'argent. Ainsi, de Zante, nous devions aller sur la côte de Grèce en louvoyant. Tel que vous me voyez, mon nom de Georges est fameux dans ces pays-là. Je suis le petit-fils de ce fameux Czerny Georges qui a fait la guerre à la porte et qui, malheureusement, au lieu de l'enfoncer, s'est enfoncé lui-même. Son fils est réfugié dans la maison du consul français de Smyrne et il est venu mourir à Paris en 1792, laissant ma mère grosse de moi, son 7e enfant. Nos trésors ont été volés par un des amis de mon grand-père, en sorte que nous étions ruinés. Ma mère, qui vivait du produit de ses diamants vendus en un an, hein, a épousé en 1799 Monsieur Young, mon beau-père, un fournisseur. Mais ma mère est morte, je me suis brouillé avec mon beau-père, qui entre nous est un gredin. Il vit encore, mais nous ne nous voyons point. Ce Chinois-là nous a laissés tous les 7 sans nous dire es-tu chien, es-tu loup? Et voilà comment, de désespoir, je suis parti en 1813, simple conscrit. Vous ne sauriez croire avec quelle joie ce vieux Ali de Tébélen a reçu le petit-fils de Czerny Georges. Ici, je me fais appeler simplement Georges. Le pacha m'a donné un sérail. Vous avez eu un sérail? Dit Oscar. Étiez-vous pacha à beaucoup de queues? Demanda Mistigris. Comment? Ne savez-vous pas, reprit Georges, qu'il n'y a que le sultan qui fasse des pachas, et que mon ami Tébélem, car nous étions amis comme Bourbon, se révoltait contre le padischah. Vous savez, ou vous ne savez pas, que le vrai nom du grand seigneur est Padishah et non pas grand turc ou sultan. Ne croyez pas que ce soit grand-chose, un sérail. Autant avoir un troupeau de chèvres. Ces femmes-là sont bien bêtes et j'aime 100 fois mieux les grisettes de la Chaumière à Montparnasse. C'est plus près, dit le comte de Sérisy. Les femmes de sérail ne savent pas un mot de français. Et la langue est indispensable pour s'entendre. Ali m'a donné 5 femmes légitimes et 10 esclaves. À Janina, c'est comme si je n'avais rien eu. Dans l'Orient, voyez-vous, avoir des femmes, c'est très mauvais genre. On en a comme nous avons ici Voltaire et Rousseau. Mais qui jamais ouvre son Voltaire ou son Rousseau? Personne. Et cependant, le grand genre est d'être jaloux. On coud une femme dans un sac et on la jette à l'eau sur un simple soupçon, près un article de leur code. En avez-vous jeté? Demanda le fermier. Oh, moi, fi donc, un Français, mais je les ai aimés. Là-dessus, Georges refrisa, retroussa ses moustaches et prit un air rêveur. On entrait à Saint-Denis où Pierre Rotin s'arrêta devant la porte de l'aubergiste qui vend les célèbres talmouses et où tous les voyageurs descendent. Intrigué par les apparences de vérité mêlées aux plaisanteries de Georges, le comte remonta promptement dans la voiture, regarda sous le coussin le portefeuille que Pierrotin lui dit y avoir été mis par ce personnage énigmatique, et lut en lettres dorées « Maître Crottat, notaire ». Aussitôt, le comte se permit d'ouvrir le portefeuille, en craignant avec raison que le père Léger ne fût pris d'une curiosité semblable. Il en ôta l'acte qui concernait la ferme des Moulineaux, le plia, le mit dans sa poche de côté de sa redingote, et revint examiner les voyageurs. Ce Georges est tout bonnement le second clerc de Crottat. Oh, je ferai mes compliments à son patron, qui devait m'envoyer son premier clerc, se dit-il. À l'air respectueux du père Léger et d'Oscar, Georges comprit qu'il avait en eux deux fervents admirateurs. Il se posa naturellement en grand seigneur. Il leur paya des talmouses et un verre de vin d'Alicante, ainsi qu'à Mistigri et à son maître, en profitant de cette large largesse pour demander leur nom. « Oh, monsieur, dit le patron de Mistigri, je ne suis pas doué d'un nom illustre comme le vôtre. Je ne reviens pas d'Asie. » En ce moment, le comte, qui s'était empressé de rentrer dans l'immense cuisine de l'aubergiste afin de ne donner aucun soupçon sur sa découverte, put écouter la fin de cette réponse. « Je suis tout bonnement un pauvre peintre qui revient de Rome, où je suis allé aux frais du gouvernement après avoir remporté le Grand Prix il y a 5 ans. Je me nomme Schinner. Hey, »« Hé, bourgeois, peut-on vous offrir un verre d'Alicante et des talmouses ?» dit Georges au comte. « Merci, dit le comte. » Je ne sens jamais sans avoir pris ma tasse de café à la crème. Et vous ne mangez rien entre vos repas? Comme ces marais, Place Royale et île Saint-Louis, dit Georges. Quand il a blagué tout à l'heure sur ses croix, je le croyais plus fort qu'il n'est, dit-il à voix basse au peintre, mais nous le remettrons sur ses décorations, ce petit fabricant de chandelles. « Allons, mon brave, dit-il à Oscar, humez-moi le verre versé pour l'épicier, ça vous fera pousser les moustaches. » Oscar voulut faire l'homme, il but le second verre et mangea 3 autres talmouses. « Bon vin, dit le père Léger en faisant claquer sa langue contre son palais. « Il est autant meilleur, dit Georges, qu'il vient de Bercy. » Je suis allé à Alicante et voyez-vous, c'est du vin de ce pays-là, comme mon bras ressemble à un moulin à vent. Nos vins factices sont bien meilleurs que les vins naturels. Allons, Pierrotin, un verre. Hein? C'est bien dommage que vos chevaux ne puissent pas en siffler chacun. Nous irions mieux. Oh, c'est pas la peine. J'ai déjà un cheval gris, dit Pierrotin en montrant Michette. En entendant ce vulgaire calembour, Oscar trouva Pierrotin un garçon prodigieux. En route! Ce mot de Pierrotin retentit au milieu d'un claquement de fouet quand les voyageurs se furent emboîtés. Il était alors 11 heures. Le temps, un peu couvert, se leva. Le vent du haut chassa les nuages. Le bleu de l'éther brilla par places. Aussi, quand la voiture à pierrotin s'élança dans le petit ruban de route qui sépare Saint-Denis de Pierrefitte, le soleil avait-il achevé de boire les dernières vapeurs fines dont le voile diaphane enveloppait les fameux paysages de cette région. « Eh bien, pourquoi donc avez-vous quitté votre ami le Pacha ?» dit le père Léger à Georges. « C'était un singulier polisson, » répondit Georges d'un air qui cachait bien des mystères. « Figurez-vous, il me donne sa cavalerie à commander. Très bien. Ah, voilà pourquoi il a des éperons, » pensa le pauvre Oscar. De mon temps, Ali de Tébélen avait à se dépêtrer de Chosref Pacha. Oh, encore un nom de pistolet. Vous le nommez ici Chosref, mais son nom en turc se prononce Kosre. Vous avez dû lire autrefois dans les journaux que le vieil Ali a rossé Chosref, et naturellement et solidement. Eh bien, sans moi, Ali de Tébélen eût été frit quelques jours plus promptement. J'étais à l'aile droite et je vois Chosreux, un vieux finot, qui vous enfonce votre centre. Oh là, raide et par un beau mouvement à la Murat. Bon, alors, je prends mon temps, je fais une charge à fond de train et coupe en deux la colonne de Chosreux qui avait dépassé le centre et qui restait à découvert. Vous comprenez ? Ah, Adam, après l'affaire, Ali m'embrassa. « Ça se fait en Orient ?» dit le comte de Sérisy d'un air goguenard. Oh, « Oui, monsieur, » reprit le peintre, « ça se fait partout. Nous avons ramené Chosref pendant 30 lieues de pays, comme à une chasse, quoi, » reprit Georges. « C'est des cavaliers finis, les Turcs. Ali m'a donné des yatagans, des fusils et des sabres. En veux-tu, en voilà. » De retour dans sa capitale, ce satané farceur m'a fait des propositions qui ne me convenaient pas du tout. Ces orientaux sont drôles quand ils ont une idée. Ali voulait que je fusse son favori, son héritier. Moi, j'avais assez de cette vie-là, car après tout, Ali de Tébélem était en rébellion avec la porte, et je jugeais convenable de la prendre, la porte. Mais j'en justice à M. de Tébélem, il m'a comblé de présents, des diamants, 10 000 talaris, 1 000 pièces d'or, une belle grecque pour groom, un petit amote pour compagne et un cheval arabe. Allez, Ali Pacha de Janina est un homme incompris. Il lui faudrait un historien. Il n'y a qu'en Orient qu'on rencontre de ces âmes de bronze qui, pendant 20 ans, font tout pour pouvoir venger une offense un beau matin. D'abord, il avait la plus belle barbe blanche qu'on puisse voir, une figure dure, sévère. Mais qu'avez-vous fait de vos trésors ? Dit le père Léger. Ah, voilà. Ces gens-là n'ont pas de grands livres ni de banque de France. J'emportais donc mes bigaillons sur une tartane grecque qui fut pincé par le capitaine Pacha lui-même. Tel que vous me voyez, j'ai failli être empalé à Smyrne. Oui, ma foi, sans Monsieur de Rivière, l'ambassadeur qui s'y trouvait, on me prenait pour un complice d'Ali Pacha. J'ai sauvé ma tête afin de parler honnêtement, mais les 10 000 talaris, les 1 000 pièces d'or, les armes, oh, tout a été bu par le soifard trésor du capitaine Pacha. Ma position était d'autant plus difficile que ce capitaine Pacha n'était autre que Chosref. Depuis sa rincée, le drôle avait obtenu cette place, qui équivaut à celle de grand amiral en France. Mais il était dans la cavalerie, à ce qu'il paraît, dit le père Léger, qui suivait avec attention le récit de Georges. Oh, comme on voit bien que l'Orient est peu connu dans le département de Seine-et-Oise, s'écria Georges. Monsieur, voilà les Turcs. Vous êtes fermier, le padishah vous nomme maréchal, et si vous ne remplissez pas vos fonctions à sa satisfaction, tant pis pour vous, on vous coupe la tête. C'est sa manière de destituer les fonctionnaires. Un jardinier passe préfet et un premier ministre redevient Tchaoux. Les Ottomans ne connaissent point les lois sur l'avancement ni la hiérarchie. De cavalier, Chosrev était devenu marin. Le padishah Mahmoud l'avait chargé de prendre Ali par mer, et il s'est en effet rendu maître de lui, mais assisté par les Anglais, qui ont eu la bonne part, les gueux. Ils ont mis la main sur les trésors. Ce Chosrev, qui n'avait pas oublié la leçon d'équitation que je lui avais donnée, me reconnut. Vous comprenez que mon affaire était faite, oh, Red. Si je n'avais pas eu l'idée de me réclamer en qualité de Français et de troubadour auprès de M. Le Rivière. L'ambassadeur, enchanté de se montrer, demanda ma liberté. Les Turcs ont cela de bon dans le caractère qu'ils vous laissent aussi bien aller qu'ils vous coupent la tête. Ils sont indifférents à tout. Le consul de France, un charmant homme, ami de Chosrev, me fit restituer 2000 talaris. Aussi, son nom, je puis le dire, est-il gravé dans mon cœur. « Vous le nommez ?» demanda M. de Sérisy. M. de Sérisy laissa voir sur sa figure quelques marques d'étonnement quand Georges lui dit effectivement le nom d'un de nos plus remarquables consuls généraux qui se trouvait alors à Smyrne. J'assistais par parenthèse à l'exécution du commandant de Smyrne, que le padishah avait ordonné à Chosrev de mettre à mort, une des choses les plus curieuses que j'ai vues, quoique j'en ai vu beaucoup. Je vous la raconterai tout à l'heure en déjeunant. De Smyrne, je passais en Espagne en apprenant qu'il s'y faisait une révolution. Oh, je suis allé tout droit à Mina, qui m'a pris pour aide-de-camp et m'a donné le grade de colonel. Je me suis battu pour la cause constitutionnelle qui va succomber, car nous allons entrer en Espagne un de ces jours. Et vous êtes officier français, dit sévèrement le comte de Sérisy. Vous comptez bien sur la discrétion de ceux qui vous écoutent. Ben, il n'y a pas de mouchard, dit Georges. Vous ne songez donc pas, colonel Georges, dit le comte, qu'en ce moment, on juge à la cour des pairs une conspiration qui rend le gouvernement très sévère à l'égard des militaires qui portent les armes contre la France et qui nouent des intrigues à l'étranger dans le dessein de renverser nos souverains légitimes. Sur cette terrible observation, le peintre devint rouge jusqu'aux oreilles et regarda Mistigris qui parut interdit. « Eh bien, dit le père Léger, après. Si, par exemple, j'étais magistrat, mon devoir ne serait-il pas, répondit le comte, de faire arrêter l'aide de camp de Mina par les gendarmes de la brigade de Pierrefitte et d'assigner comme témoins tous les voyageurs qui sont dans la voiture ? Ces paroles coupèrent d'autant mieux la parole à Georges qu'on arrivait devant la brigade de gendarmerie dont le drapeau blanc flottait en termes classiques au gré du zéphyr. Vous avez trop de décorations pour vous permettre une pareille lâcheté, dit Oscar. Nous allons le repincer, dit Georges à l'oreille d'Oscar. Colonel, s'écria Léger, que la sortie du comte de Sérisy oppressait et qui voulait changer de conversation, dans les pays où vous êtes allé, comment ces gens-là cultivent-ils? Quels sont leurs assolements? Bon, d'abord, vous comprenez, mon brave, que ces gens-là sont trop occupés de fumer eux-mêmes pour fumer leurs terres. Le comte ne put s'empêcher de sourire. Ce sourire rassura le narrateur. « Mais ils ont une façon de cultiver qui va vous sembler drôle. Ils ne cultivent pas du tout. Voilà leur manière de cultiver. Les Turcs, les Grecs, ça mange des oignons ou du riz. Ils recueillent l'opium de leurs coquelicots qui leur donne de grands revenus. Et puis, ils ont le tabac qui qui croissent spontanément, le fameux lattaki, et puis les dattes, un tas de sucreries qui croissent sans culture. C'est un pays plein de ressources et de commerce. On fait beaucoup de tapis à Smyrne et pas cher. Mais, dit Léger, si les tapis sont en laine, elle ne vient que des moutons. Et pour avoir des moutons, il faut des prairies, des fermes, une culture. Il doit bien y avoir quelque chose qui ressemble à cela, répondit Georges. Mais le riz vient dans l'eau, d'abord, puis moi. J'ai toujours longé les côtes et je n'ai vu que des paysages ravagés par la guerre. D'ailleurs, j'ai la plus profonde aversion pour la statistique. Et les impôts, dit le père Léger. Oh, les impôts sont lourds, on leur prend tout, mais on leur laisse le reste. Frappé des avantages de ce système, le pacha d'Égypte était en train d'organiser son administration sur ce pied-là, quand je l'ai quitté. Mais comment, dit le père Léger, qui ne comprenait plus rien. Comment, reprit Georges, mais il a des agents qui prennent les récoltes, en laissant au fellah juste de quoi vivre. Aussi dans ce système-là, point de paperasse ni de bureaucratie, la plaie de la France. Ah, voilà. Mais en vertu de quoi, dit le fermier. C'est un pays de despotisme, voilà tout. Ne savez-vous pas la belle définition dans les parements cieux du despotisme ? Comme le sauvage, il coupe l'arbre par le pied pour en avoir les fruits. Et l'on veut nous ramener là, dit Mistigris. Mais chaque échaudé craint l'eau froide. Et on y viendra, s'écria le comte de Sérisy. Aussi, ceux qui ont des terres feront-ils du bien de les vendre. Monsieur Schinner a dû voir de quel train toutes ces choses-là reviennent en Italie. Carpo di banco, le pape n'y va pas de main morte, reprit Schinner. Mais on y est fait, les Italiens ont un si bon peuple. Pourvu qu'on les laisse un peu assassiner les voyageurs sur les routes, ils sont contents. Mais, reprit le comte, vous ne portez pas non plus la décoration de la Légion d'honneur que vous avez obtenue en 1819. C'est donc une mode générale ? Mistigris et le Faux-Chineur rougirent jusqu'aux oreilles. C'est différent, reprit Chineur. Je ne voudrais pas être reconnu. Ne me trahissez pas, monsieur. Je suis censé être un petit peintre sans conséquence. Je passe pour un décorateur. Je vais dans un château, je ne dois exciter aucun soupçon. Ah, dit le comte. Une bonne fortune, une intrigue. Oh, vous êtes bien heureux d'être jeune. Oscar, qui crevait dans sa peau de n'être rien et de n'avoir rien à dire, regardait le colonel Czerny-Georges, le grand peintre Schinner, et il cherchait à se métamorphoser en quelque chose. Mais que pouvait être un garçon de 19 ans qu'on envoyait pendant 15 à 20 jours à la campagne chez le régisseur de Presles. Le vin d'Alicante lui montait à la tête et son amour-propre lui faisait bouillonner le sang dans les veines. Aussi, lorsque le fameux Schinner laissa deviner une aventure romanesque dont le bonheur devait être aussi grand que le danger, attacha-t-il sur lui des yeux pétillants de rage et d'envie. « Ha ! » dit le comte d'un air envieux et crédule. « Il faut bien aimer une femme pour lui faire de si énormes sacrifices. »« Quel sacrifice ?» dit Mistigris. Ah, « ne savez-vous donc pas, mon petit ami, qu'un plafond peint par un si grand maître se couvre d'or ?» répondit le comte. « Voyons, si la liste civile vous paie 30 000 francs, ceux de 2 salles au Louvre, » reprit-il en regardant Schinner, « pour un bourgeois, comme vous dites de nous dans vos ateliers, un plafond vaut bien 20 000 francs. Or, à peine en donnera-t-on 2 000 à un décorateur obscur. » « L'argent de moi n'est pas la plus grande perte, » répondit Mistigris. Songez donc que ce sera certes un chef-d'œuvre, qu'il ne faut pas le signer pour ne point le compromettre. Je rendrai bien toutes mes croix au souverain de l'Europe pour être aimé comme l'est un jeune homme à qui l'amour inspire de tels dévouements, s'écria M. de Sérisy. Voilà, dit Mistigris, on est jeune, on est aimé, on a des femmes, et comme on dit, abondance de chiens ne nuit pas. Et que dit de cela, Madame Schinner, reprit le comte, car vous avez épousé par amour la belle Adélaïde de Rouville, la protégée du vieil amiral de Kergarouët qui vous a fait obtenir vos plafonds au Louvre par son neveu le comte de Fontaine. Est-ce qu'un grand peintre est jamais marié en voyage ? Fit observer Mistigris. Voilà donc la morale des ateliers, s'écria niaisement le comte de Sérisy. La morale des cours, vous avez eu vos décorations, est-elle meilleure ? Dit Schinner, qui recouvra son sang-froid, un moment troublé par la connaissance que le comte annonçait avoir des commandes faites à Schinner. Oh, je n'en ai pas demandé une seule, répondit le comte, et je crois les avoir toutes loyeusement gagnées. Et ça vous va comme un notaire sur une jambe de bois, répliqua Mistigris. Monsieur de Sérisy ne voulut pas se trahir, il prit un air de bonhomie en regardant la vallée de Groslay qui se découvre en prenant à la patte d'oie le chemin de Saint-Brice et laissant sur la droite celle de Chantilly. Attrape, dit en grommelant Oscar. Est-ce aussi beau qu'on le prétend, Rome ? Demanda Georges au grand peintre. Rome n'est belle que pour les gens qui aiment. Il faut avoir une passion pour s'y plaire. Mais comme ville, j'aime mieux Venise, quoique j'ai manqué d'y être assassiné. Ma foi sans moi, dit Mistigris, vous la gobillez joliment. C'est ce satané farceur de Lord Byron qui vous a valu cela. Oh, ce chinois d'anglais était-il rageur ? Chut, dit Schinner, je ne veux pas qu'on sache mon affaire avec Lord Byron. Avouez tout de même, répondit Mistigris, que vous avez été bien heureux que j'ai appris à tirer la savate. De temps en temps, Pierrotin échangeait avec le comte de Sérisy des regards singuliers qui eussent inquiété des gens un peu plus expérimentés que ne l'étaient les cinq voyageurs. Des lords, des pachas, des plafonds de 30 000 francs. Ah, ça ! S'écria le messager de l'île Adam, je mène donc des souverains aujourd'hui. Quel pourboire ! Sans compter que les places sont payées, dit finement Mistigris. Ça m'arrive à propos, reprit Pierrotin, car, père léger, vous savez bien ma belle voiture neuve sur laquelle j'ai donné 2 000 francs d'art. Eh bien, ces canailles de carrossiers, à qui je dois compter 2 500 francs demain, n'ont pas voulu accepter un acompte de 1 500 francs et recevoir de moi un billet de 1 000 francs à 2 mois. Ces carcans-là veulent tout. Être dur à ce point, avec un homme établi depuis 8 ans, avec un père de famille et le maître en danger, de perdre tout, argent et voiture, si je ne trouve pas un misérable billet de 1 000 francs. Eh oui, Bichette, il ne ferait pas ce tour-là aux grandes entreprises, allez. Ah, dame, pas d'argent, pas de suif, dit le rapin. Ben, vous n'avez plus que 800 francs à trouver, répondit le comte, en voyant dans cette plainte adressée au père léger une espèce de lettre de change tirée sur lui. C'est vrai, dit Pierrotin. « Allez, xixi, rougeau. Vous avez dû voir de beaux plafonds à Venise, » reprit le comte en s'adressant à Schinner. « J'étais trop amoureux pour faire attention à ce qui me semblait alors n'être que des bagatelles, » répondit Schinner. « Je devrais plutôt être bien guéri de la bourre, car j'ai reçu précisément dans les états vénitiens, en Dalmatie, une cruelle leçon. » Ça peut se dire, demanda Georges, je connais la Dalmatie. Eh bien, si vous y êtes allé, vous devez savoir qu'au fond de l'Adriatique, ces tout vieux pirates formant corsaires retiraient des affaires quand ils n'ont pas été pendus des... les uscoques, enfin, dit Georges. En entendant le mot propre, le comte que Napoléon avait envoyé jadis dans les provinces illyriennes tourna la tête tant il en fut étonné. C'est dans cette ville où l'on fait du marasquin, dit Schinner en paraissant chercher un nom. Zara, dit Georges, j'y suis allé, c'est sur la côte. Vous y êtes, reprit le peintre. Moi, j'allais là pour observer le pays, car j'adore le paysage. Voilà 20 fois que j'ai le désir de faire du paysage, que personne, selon moi, ne comprend, excepté Mistigri, qui recommencera quelque jour Obema, Ruisdael, Claude Lorrain, Poussin et autres. Mais, s'écria le comte, qu'il n'en recommence qu'un de ceux-là, ce sera bien assez. Si vous interrogez toujours monsieur, dit Oscar, nous ne nous y reconnaîtrons plus. Ce n'est pas d'ailleurs à vous que monsieur s'adresse, dit Georges au comte. Ah, c'est pas poli de couper la parole, dit sentencieusement Mistigri. Mais nous en avons tous fait autant, et nous perdrions beaucoup si nous ne semions pas le discours de petits agréments en échangeant nos réflexions. Tous les Français sont égaux dans le coucou, a dit le petit-fils de Georges. Ainsi, continuez, agréable vieillard. Blaguez-nous. Cela se fait dans les meilleures sociétés. Vous savez le proverbe. Il faut hurler avec les loups. Vous m'avez dit des merveilles de la Dalmatie, reprit Schinner. J'y vais donc en laissant Mistigri à Venise à l'auberge. À la locanda, dit Mistigri, lâchons la couleur locale. Zara est, comme on dit, une vilainie. Oui, dit Georges, mais elle est fortifiée. Parbleu, dit Schinner, les fortifications sont pour beaucoup dans mon aventure. À Zara, il se trouve beaucoup d'apothicaires. Je me loge chez l'un d'eux. Dans les pays étrangers, tout le monde a pour principal métier de louer en garni. L'autre métier est un accessoire. Le soir, je me mets à mon balcon après avoir changé de linge. Or, sur le balcon d'en face, j'aperçois une femme, ou même une femme, une grecque, c'est tout dire, la plus belle créature de toute la ville. Des yeux tendus en amande, des paupières qui se dépliaient comme des jalousies et des cils comme des pinceaux. Un visage d'un ovale à rendre fou Raphaël, un teint d'un coloris délicieux, les teintes bien fondues, veloutées, des mains qui n'étaient pas de beurre, comme celle de la peinture de l'école de David, dit Mistigri. Et vous vous parlez toujours peinture, s'écria Georges. Ah, voilà, chassez le naturel, il revient au jabot, répliqua Mistigri. Et un costume, alors le costume pur grec, reprit Schinner. Vous comprenez, me voilà incendié. Je questionne mon diaphoirus. Il m'apprend que cette voisine se nomme Zéna. Je change de linge. Pour épouser Zéna, le mari, vieille infâme, a donné 300 000 francs aux parents, tant était célèbre la beauté de cette fille, vraiment la plus belle de toute la Dalmatie, Illyrie, Adriatique, etc. Dans ce pays-là, on achète sa femme et sans voir. On lui répond, dit le père Léger. Il y a des nuits où mon sommeil est éclairé par les yeux de Zéna, reprit Schinner. Ce jeune premier de mari avait 67 ans. Bon, mais il était jaloux, non pas comme un tigre, car on dit des tigres qu'ils sont jaloux comme un dalmate, et non, homme était pire qu'un dalmate. Il valait 3 dalmates et demi. C'était un uscoq, un tricoq, un archicoq dans une bicoque. Enfin, un de ces gaillards qui n'attachent pas leur chien avec des sangs suisses, dit Mistigri. Oh, fameux, reprit Georges en riant. À part avoir été corsaire, peut-être pirate, mon drôle se moquait de tuer un chrétien comme moi de cracher par terre, reprit Schinner. Voilà qui va bien. D'ailleurs, richissime à millions, le vieux gredin, et laid comme un pirate à qui je ne sais quel pacha aurait pris les oreilles et qui avait laissé un œil je ne sais où. L'Uscoque se servait joliment de celui qui lui restait, et je vous prie de me croire quand je vous dirai qu'il avait l'œil à tout.
Jamais, me dit le petit Diafoirus, il ne quitte sa femme.
Si elle pouvait avoir besoin de votre ministère, je vous remplacerais déguisé. C'est un tour qui a toujours du succès dans nos pièces de théâtre, lui répondis-je. Il serait trop long de vous peindre le plus délicieux moment de ma vie, à savoir les 3 jours que j'ai passés à ma fenêtre, échangeant des regards avec Zéna et changeant de linge tous les matins. C'était d'autant plus violemment chatouilleux que les moindres mouvements étaient significatifs et dangereux. Enfin, Zéna jugea sans doute qu'un étranger, un Français, un artiste, était seul au monde capable de lui faire les yeux doux au milieu des abîmes qui l'entouraient. Et comme elle exécrait son affreux pirate, elle répondait à mes regards par des œillades à enlever un homme dans le cintre du paradis sans poulie. J'arrivais à la hauteur de Don Quichotte. Alors je m'exalte, enfin je m'écriais: Eh bien, le vieux me tuera, mais j'irai. Point d'étude de paysage, j'étudiais la bicoque de l'Uscoque. À la nuit, ayant mis le plus parfumé de mon linge, je traverse la rue et j'entre. Dans la maison? Dit Oscar. Dans la maison? Reprit Georges. Dans la maison, répéta Schinner. Eh bien, vous êtes un fier luron, s'écria le père Léger. J'y serais pas allé, moi. D'autant plus que vous n'auriez pas pu passer par la porte, répondit Schinner. J'entre donc, reprit-il, et je trouve 2 mains qui me prennent les mains. Je ne dis rien, car ces mains douces comme une pelure d'oignon me recommandaient le silence. On me souffle à l'oreille en vénitien: Il dort. Puis, quand nous sommes sûrs que personne ne peut nous rencontrer, nous allons, Zéna et moi, sur les remparts nous promener, mais accompagnés, s'il vous plaît, d'une vieille duègne, laide comme un vieux portier, et qui ne nous quittait pas plus que notre ombre, sans que j'aie pu décider Madame la pirate à se séparer de cette absurde compagnie. Le lendemain soir, nous recommençons. Je voulais faire renvoyer la vieille. Zéna résiste. Comme mon amoureuse parlait grec et moi vénitien, nous ne pouvions pas nous entendre, aussi nous quittâmes-nous brouillés. Je me dis, en changeant de linge: Pour sûr, la première fois, il n'y aura plus de vieille, nous nous recommanderons chacun dans notre langue maternelle. Eh bien, c'est la vieille qui m'a sauvé. Vous allez voir. Il faisait si beau que, pour ne pas donner de soupçons, je vais flâner dans le paysage, après notre raccommodement, bien entendu. Après m'être promené le long des remparts, je viens tranquillement, les mains dans mes poches, et je vois la rue obstruée de monde. Une foule! Bah, comme pour une exécution. Cette foule se rue sur moi. Je suis arrêté, garrotté, conduit et gardé par des gens de police. Non, vous ne le savez pas, et je souhaite que vous ne sachiez jamais ce que c'est que de passer pour un assassin aux yeux d'une populace effrénée qui vous jette des pierres, qui hurle après vous depuis le haut jusqu'en bas de la principale rue d'une petite ville, qui vous poursuit le cri de mort. Ah! Tous les yeux sont comme autant de flammes, toutes les bouches sont une injure, et ces brandons de haine brûlante se détachent sur l'effroyable cri: à bord l'assassin! Qui fait de loin comme une basse-taille. Y criait donc en français, ces dalmates? Demanda le comte à Schinner. Vous nous racontez cette scène comme si elle vous était arrivée d'hier. » Schinner resta tout interloqué.
Oh, l'émeute parle la même langue partout, dit le profond politique Mistigris.
Enfin, reprit Schinner, quand je suis au palais de l'endroit et en présence des magistrats du pays, j'apprends que le damné corsaire est mort empoisonné par Zéna. J'aurais bien voulu pouvoir changer de linge. Parole d'honneur, je ne savais rien de ce mélodrame.
Il paraît que la grecque mêlait de l'opium, il y a tant de coquelicots par là, comme dit monsieur, au grog du pirate afin de voler un petit instant de liberté pour se promener. Et la veille, cette malheureuse femme s'était trompée de dose. L'immense fortune du damné pirate causait tout le malheur de Mazena. Mais elle expliqua si naïvement les choses que moi, d'abord, sur la déclaration de la vieille, je fus mis hors de cause avec une injonction du maire et du commissaire de police autrichien d'aller à Rome. Zéna, qui laissa prendre une grande partie des richesses du Luscoq aux héritiers et à la justice, en fut quitte, m'a-t-on dit, pour 2 ans de réclusion dans un couvent où elle est encore. J'irai faire son portrait, car dans quelques années tout sera bien oublié. Voilà les sottises qu'on commet à 18 ans.
Et vous m'avez laissé sans un sou dans la locanda à Venise, dit Mistigris. Je suis allé de Venise à Rome vous retrouver en brossant des portraits à 5 francs pièce qu'on ne me payait pas, mais c'est mon plus beau temps. Le bonheur, comme on dit, n'habite pas sous des nombris dorés.
Vous figurez-vous les réflexions qui me prenaient à la gorge dans une prison dalmate, jetée là sans protection, ayant à répondre à des Autrichiens de Dalmatie et menacée de perdre la tête pour m'être promenée 2 fois avec une femme entêtée à garder sa portière.
« Voilà du guignon !» s'écria Schinner.
« Comment, dit naïvement Oscar, ça vous est arrivé ?»«
Pourquoi ?» Ce ne serait-il pas arrivé à monsieur, puisque c'était arrivé déjà une fois pendant l'occupation française en Illyrie, à l'un de nos plus beaux officiers d'artillerie, dit finement le comte.
Et vous avez cru l'artilleur, dit finement Mistigris au comte.
Et c'est tout, demanda Oscar.
Eh bien, dit Mistigris, il ne peut pas vous dire qu'on lui a coupé la tête. Plus on est debout, plus on rit.
« Monsieur, y a-t-il des fermes dans ce pays-là ? » demanda le père Léger. « Comment y cultive-t-on ? »
« On cultive le marasquin, dit Mistigris, une plante qui vient à hauteur de bouche et qui produit la liqueur de ce nom. »«
Ah ! » me dit le père Léger.
« Oh, je ne suis resté que 3 jours en ville et 15 jours en prison. Je n'ai rien vu, pas même les champs où se récolte le marasquin. » répondit Schinner.
Il se moque de vous, dit Georges au père Léger. Le marasquin vient dans des caisses.
La voiture à Birotin descendait alors un des versants du rapide vallon de Saint-Brice pour gagner l'auberge sise au milieu de ce gros bourg, où il s'arrêtait d'environ 1 heure pour faire souffler ses chevaux, leur laisser manger leur avoine et leur donner à boire. Il était alors environ 1h30.
Eh, c'est le père Léger ! S'écria l'aubergiste au moment où la voiture se rangea devant sa porte. Déjeunez-vous ?
Tous les jours une fois, répondit le gros fermier. Nous casserons une croûte.
Faites-nous donner à déjeuner, dit Georges en tenant sa canne au port d'armes d'une façon cavalière, qui excita l'admiration d'Oscar.
Oscar enragea quand il vit cet insouciant aventurier tirant de sa poche de côté un étui de paille façonné où il prit un cigare blond qu'il fuma sur le seuil de la porte en attendant le déjeuner.
En usez-vous? Dit Georges à Oscar.
Quelquefois, répondit l'ex-collégien en bombant sa petite poitrine et prenant un air crâne.
Georges présenta l'étui tout ouvert à Oscar et à Schinner.
Peste, dit le grand peintre, des cigarettes de 10 sous.
Voilà le reste de ce que j'ai rapporté d'Espagne, dit l'aventurier. Déjeunez-vous?
Non, dit l'artiste, je suis attendu au château. D'ailleurs, j'ai pris quelque chose avant de partir.
Et vous? Dit Georges à Oscar.
J'ai déjeuné, dit Oscar.
Oscar aurait donné 10 ans de sa vie pour avoir des bottes et des sous-pieds. Et il éternuait, et il toussait, et il crachait, et il accueillait la fumée avec des grimaces mal déguisées.
Vous ne savez pas fumer, lui dit Schinner. Tenez.
Schinner, la figure immobile, aspira la fumée de son cigare et la rendit par le nez sans la moindre contraction. Il recommença, garda la fumée dans son gosier, sauta de la bouche le cigare et souffla gracieusement la fumée.
« Voilà, jeune homme, dit le grand peintre.
« Voilà, jeune homme, un autre procédé, dit Georges en imitant Schinner, mais en avalant toute la fumée et ne rendant rien.
Ah, et mes parents, qui croient m'avoir donné de l'éducation, pensa le pauvre Oscar en essayant de fumer avec grâce.
Il éprouva une nausée si forte qu'il se laissa volontiers chiper son cigare par Mistigris, qui lui dit en le fumant avec un plaisir évident, « Vous n'avez pas de maladie contagieuse. »
Oscar aurait voulu être assez fort pour cogner Mistigris, mais comment, se dit-il en lui-même, en pensant au colonel Georges,
8 francs de vin d'Alicante et de Talmouse, 40 sous de cigares, et son déjeuner qui va lui coûter...
Ah! Père Léger, nous boirons mieux une bouteille de vin de Bordeaux, dit alors Georges au fermier.
Un déjeuner qui va lui coûter 10 francs, s'écria en lui-même Oscar. Ainsi, voilà maintenant 20 et quelques francs.
Tué par le sentiment de son infériorité, Oscar s'assit sur la borne et se perdit dans une rêverie qui ne lui permit pas de voir que son pantalon, retroussé par l'effet de sa position, montrait le point de jonction d'un vieux haut de bas avec un pied tout neuf, un chef-d'œuvre de sa mère.
« Nous sommes confrères en bas, » dit Mistigris, en relevant un peu son pantalon pour montrer un effet du même genre. « Mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. »«
Pardon. » sont toujours les plus mal fauchés. Non, pardon. Mais les cordonniers sont toujours les plus mal chauffés.
Cette plaisanterie fit sourire Monsieur de Sérisy, qui se tenait les bras croisés sous la porte cochère en arrière des voyageurs. Quelque fous que fussent ces jeunes gens, le grave homme d'État leur enviait leurs défauts. Il aimait leur jactance, il admirait la vivacité de leur plaisanterie.
« Eh bien, aurez-vous les moulineaux, car vous êtes allé chercher des écus à Paris ?» disait au père Léger, l'aubergiste, qui venait de lui monter dans ses écuries un bidet à vendre. « Ce sera drôle à vous de refaire le poil à un pair de France, à un ministre d'État, au comte de Sérisy. »
Le vieil administrateur ne laissa rien voir sur son visage et se retourna pour examiner le fermier.
« Il est cuit !» répondit à voix basse le père Léger à l'aubergiste. « Ma foi, tant mieux. J'aime à voir les nobles embêtés. Il vous faudrait 20 000 francs, je vous le prêterai. Mais François, le conducteur de la Touchard de 6 heures, vient de me dire que M. Margueron était invité par le comte de Sérisy à dîner aujourd'hui même à Presles.
C'est le projet de son Excellence, mais
Nous avons aussi nos malices, répondit le père Léger. Le comte placera le fils de M. Margueron et vous n'avez pas de peine à donner, vous, dit l'aubergiste au berger. Non, mais si le comte a pour lui les ministres, moi j'ai le roi Louis XVIII, dit le père Léger à l'oreille de l'aubergiste, et 40 000 écus de ses portraits donnés au bonhomme Moreau me permettront d'acheter les Moulineaux, 260 000 francs comptant, avant M. de Sérisy, qui sera bien heureux de racheter la ferme 360 000 francs au lieu de voir mettre les pièces de terre, une à une en adjudication. Pas mal, bourgeois, s'écria l'aubergiste. Est-ce bien travaillé, dit le fermier. Ah, après ça, dit l'aubergiste, pour lui, la ferme vaut ça. Mais les Moulineaux rapportent aujourd'hui 6 000 francs nets d'impôts. Et je renouvellerai le bail à 7 700 pour 18 ans. Ainsi, c'est un placement à plus de 2,5. Monsieur le comte ne sera pas volé. Pour ne pas faire tort à Monsieur Moreau, je serai proposé par lui pour faire mieux au comte et il aura l'air de prendre les intérêts de son maître en lui trouvant presque 3% de son argent et un locataire qui paiera bien. Alors, qu'aura-t-il en tout le père Moreau ? Dame, si le comte lui donne 10 000 francs, il aura de cette affaire-là 50 000 francs, mais il les aura bien gagnés. D'ailleurs, après tout, il se soucie bien peu de prêle, et il est si riche, dit l'aubergiste. Je l'ai jamais vu, moi. Ni moi, dit le père Léger, mais il va finir par habiter autrement, s'il ne dépenserait pas 200 000 francs à restaurer l'intérieur. C'est aussi beau que chez le roi. Ah, bien, dit l'aubergiste, il était temps que Moreau fît son beurre. Oui, car une fois les maîtres là, dit Léger, ils mettront pas leurs yeux dans leurs poches. Le comte ne perdit pas un mot de cette conversation tenue à voix basse. J'ai donc ici les preuves que j'allais chercher là-bas, pensa-t-il en regardant le gros fermier qui rentrait dans la cuisine. Peut-être, se dit-il, n'est-ce encore qu'à l'état de plan. Peut-être Moreau n'a-t-il rien accepté. Tant lui le répugnait encore de croire son régisseur capable de tremper dans une semblable conspiration. Pierrotin va donner à boire à ses chevaux. Le comte pensa que le conducteur allait déjeuner avec l'aubergiste et le fermier. Or, ce qu'il venait d'entendre lui fit craindre quelque indiscrétion. Tous ces gens-là s'entendent contre nous. C'est pain béni que de déjouer leur plan, pensa-t-il. Pierrotin, dit-il à voix basse au voiturier en s'approchant de lui, je t'ai promis 10 louis pour me garder le secret, mais si tu veux continuer à cacher mon nom, et je saurai, si tu n'as ni prononcé mon nom, ni fait le moindre signe qui puisse le révéler jusqu'à ce soir à qui que ce soit partout, même jusqu'à l'Isle-Adam. Je te donnerai demain matin, à ton passage, les 1 000 francs pour achever de payer ta nouvelle voiture. Ainsi, pour plus de sûreté, dit le comte en frappant sur l'épaule de Pierrotin, devenu pâle de plaisir, ne déjeune pas, reste à la tête de tes chevaux. Oh, monsieur le comte, je vous comprends bien, allez, c'est par rapport au père Léger. Oh, c'est vis-à-vis de tout le monde, répliqua le comte. Soyez paisible. Dépêchons-nous, dit Pierrotin en entrouvrant la porte de la cuisine, nous sommes en retard. Eh, écoutez, père Léger, vous savez qu'il y a la côte à monter. Moi, je n'ai pas faim, j'irai doucement, vous me rattraperez bien, ça vous fera du bien de marcher. Est-il enragé, Pierrotin, dit l'aubergiste, tu veux pas venir déjeuner avec nous? Le colonel paie du vin à 50 sous et une bouteille de vin de champagne. Oh, je peux pas, j'ai un poisson qui doit être mis à Stor à 3 heures pour un grand dîner. Il n'y a pas à badiner avec ces pratiques-là, ni avec les poissons.
Eh bien, dit le père léger à l'aubergiste, attelle à ton gabriolet ce cheval que tu veux me vendre, tu nous feras rattraper Pierrotin. Nous déjeunerons en paix, jugerai du cheval. Nous tiendrons bien trois dans ton tape-cul. Au grand contentement du comte, Pierrotin vint pour rebrider lui-même ses chevaux. Schinner et Mistigris étaient partis en avant, et à peine Pierrotin, qui reprit les deux artistes au milieu du chemin de Saint-Brice à Poncelles, atteignait-il à une éminence de la route, d'où l'on aperçoit Écouen, le clocher du Ménil et les forêts qui cerclent tout un paysage ravissant, que le bruit d'un cheval amenant au galop un cabriolet qui sonnait la ferraille annonça le père léger et le compagnon de Mina qui se réintégrèrent dans la voiture. Quand Pierrotin se jeta sur la berme pour descendre à Moisselles, Georges, qui n'avait cessé de parler de la beauté de l'hôtesse de Saint-Brice avec le père léger, s'écria « Tiens, le paysage n'est pas mal, grand peintre !»« Bah, il ne doit pas vous étonner, vous qui avez vu l'Orient et l'Espagne, et qui en ait deux cigares encore !» Si ça m'incommode, personne. Voulez-vous les finir, Schinner? Car le petit jeune homme en a eu assez de quelques gorgées. Le père léger et le comte gardèrent un silence qui passa pour une approbation. Ainsi, les deux conteurs furent réduits au silence. Oscar, irrité d'être appelé petit jeune homme, dit, pendant que les deux jeunes gens allumaient leurs cigares, « Si j'ai pas été l'aide de camp de Mina, monsieur, si je ne suis pas allé en Orient, j'irai peut-être. La carrière à laquelle ma famille me destine m'épargnera, j'espère, le désagrément de voyager en coucou quand j'aurai votre âge. Après avoir été un personnage, une fois en place, j'y resterai. Et coetera punctum, dit Mistigris en contrefaisant la voix de jeune coq enroué qui rendait le discours d'Oscar encore plus ridicule. Car le pauvre enfant se trouvait dans la période où la barbe pousse, où la voix prend son caractère. Après tout, ajouta Mistigris, les extrêmes se bouchent. Ma foi, dit Schinner, les chevaux ne pourront plus aller avec tant de charges. Votre famille, jeune homme, pense à vous lancer dans une carrière et à laquelle? Dit sérieusement Georges. La diplomatie, répondit Oscar. Trois éclats de rire partirent comme des fusées de la bouche de Mistigris, du grand peintre et du père léger. Le comte, lui, ne put s'empêcher de sourire. Georges garda son sang-froid. « Il n'y a pas là point de quoi rire, dit le colonel au rieur. Seulement, jeune homme, reprit-il en s'adressant à Oscar, il me semble que votre respectable mère est, pour le quart d'heure, dans une position sociale peu convenable pour une ambassadrice. Elle avait un cabas bien digne d'estime et un béquet à ses souliers.
Ma mère, monsieur, dit Oscar avec un mouvement d'indignation. Mais c'était la femme de charge de chez nous.
Oh, de chez nous est un aristocratique, s'écria le comte en interrompant Oscar.
Le roi dit nous, répliqua fièrement Oscar.
Un regard de Georges réprima l'envie de rire qui saisit tout le monde. Il fit ainsi comprendre au peintre et à Mistigris combien il était nécessaire de ménager Oscar pour exploiter cette mine de plaisanterie.
Monsieur a raison, dit le grand peintre au comte en lui montrant Oscar. Les gens comme il faut disent nous. Il n'y a que des gens sans aveu qui disent chez moi. On a toujours la manie de paraître avoir ce qu'on n'a pas. Pour un homme chargé de décoration.
Monsieur est donc toujours décorateur, fit Mistigris.
Vous ne connaissez guère le langage des cours,
Je vous demande votre protection, Excellence, ajouta Schinner en se tournant vers Oscar.
Je me félicite d'avoir voyagé sans doute avec trois hommes qui sont ou seront célèbres, un peintre illustre déjà, dit le comte à un futur général, et un jeune diplomate qui rendra quelque jour la Belgique à la France.
Après avoir commis le crime odieux de renier sa mère, Oscar, pris de rage en devinant combien ses compagnons de voyage se moquaient de lui, résolu de vaincre à tout prix leur incrédulité.
« Tout ce qui reluit n'est pas d'or, » dit-il en lançant des éclairs par les yeux.
« Ça n'est pas vrai, » s'écria Mistigris. « C'est tout ce qui reluit n'est pas fort. Vous n'irez pas loin en diplomatie si vous ne possédez pas mieux vos proverbes. »
« Si je ne connais pas bien les proverbes, je connais mon chemin. »«
Vous devez aller loin, » dit Georges, « car la femme de charge de votre maison vous a glissé les provisions comme pour un voyage d'outre-mer, du biscuit, du chocolat. »«
Un pain particulier et du chocolat, oui, monsieur, » reprit Oscar, « pour mon estomac beaucoup trop délicat pour digérer les ratatouilles d'auberge. »
« Ratatouille est aussi délicat que votre estomac, » dit Georges.
« Oh, j'aime ratatouille !» s'écria le grand peintre.
« Mais ce mot est à la mode dans les meilleures sociétés, » reprit Mistigris.
« Votre précepteur est sans doute quelque professeur célèbre, Monsieur Andrieux de l'Académie française ou Monsieur Royer-Collard, » demanda Schinner.
Mon précepteur se nomme l'abbé Loraux, aujourd'hui vicaire de Saint-Sulpice, reprit Oscar en se souvenant du nom du confesseur du collège.
Vous avez bien fait de vous faire élever particulièrement, dit Mistigris, car l'ennui naquit un jour de l'université.
Mais vous le récompenserez, votre abbé.
Certes, il sera quelque jour évêque, dit Oscar.
« Par le crédit de votre famille, » dit sérieusement Georges.
« Peut-être contribuerons-nous à le faire mettre à sa place, car l'abbé Frayssinou vient souvent à la maison. »«
Ah, vous connaissez l'abbé Frayssinou ?» demanda le comte.
« Il a des obligations à mon père, » répondit Oscar.
« Et vous allez sans doute à votre terre, » dit Georges.
« Non, monsieur, mais... « Moi, je puis dire où je vais. Je vais au château de Presles, chez le comte de Sérisy. »«
Ah, diantre ! Vous allez à Presles ?» s'écria Schinner en devenant rouge comme une cerise.
« Vous connaissez sa seigneurie, le comte de Sérisy ?» demanda Georges.
Le père léger se tourna pour voir Oscar et le regarda d'un air stupéfait en s'écriant
« Monsieur de Sérisy serait à Presles ?»«
Apparemment, puisque j'y vais, » répondit Oscar.
« Et vous avez souvent vu le comte ?» demanda Monsieur de Sérisy à Oscar.
« Comme je vous vois, » répondit Oscar. « Je suis camarade avec son fils qui est à peu près de mon âge, 19 ans, et nous montons à cheval ensemble presque tous les jours. »
Un clignement d'yeux de Pierrotin au père léger rassura pleinement le fermier.
« Ma foi, » dit le comte à Oscar, « je suis enchanté de me trouver avec un jeune homme qui puisse me parler de ce personnage. J'ai besoin de sa protection dans une affaire assez grave. » Et il ne lui en coûterait guère de me favoriser. Il s'agit d'une réclamation auprès du gouvernement américain. Je serais bien aise d'avoir des renseignements sur le caractère de Monsieur le Sérisy.
Ah, si vous voulez réussir, répondit Oscar en prenant un air malicieux, ne vous adressez pas à lui, mais à sa femme. Il en est amoureux fou. Personne mieux que moi ne sait à quel point et sa femme ne peut pas le souffrir.
Et pourquoi ? Dit Georges.
Ben, le comte a des maladies de peau qui le rend hideux et que le docteur Albert s'efforce en vain de guérir. Aussi, monsieur de Sérisy donnerait-il la moitié de son immense fortune pour avoir ma poitrine ? Dit Oscar en écartant sa chemise et montrant une carnation d'enfant. Il vit seul, retiré dans son hôtel. Aussi faut-il être bien protégé pour l'y trouver. D'abord, il se lève de fort grand matin, il travaille de 3 à 8 heures. À partir de 8 heures, il fait ses remèdes, des bains de soufre ou de vapeur. On le cuit dans des espèces de boîtes en fer, car il espère toujours guérir.
Ben, s'il est si bien avec le roi, pourquoi ne se fait-il pas toucher par lui ? Demanda Georges.
Cette femme a donc un mari à la coque, dit Mistigris. Le comte a promis 30 000 francs à un célèbre médecin écossais qui le traite en ce moment, dit Oscar en continuant. Mais alors sa femme ne saurait être blâmée de se donner du meilleur, dit Schinner, qui n'acheva pas. Oh, je crois bien, dit Oscar, ce pauvre homme est si racorni, si vieux, que vous lui donneriez 80 ans. Il est sec comme un parchemin. Et pour son malheur, il sent sa position. Oh,
il ne doit pas sentir bon, dit le facétieux père Léger.
Monsieur, il adore sa femme, il n'ose pas la gronder, reprit Oscar. Il joue avec elle des scènes à mourir de rire, absolument comme Arnolphe dans la comédie de Molière.
Le comte atterré regardait Pierrotin qui, le voyant impassible, imagina que le fils de Madame Clapart débitait des calomnies.
Aussi, monsieur, voulez-vous réussir, dit Oscar au comte, aller voir le marquis d'Aiglemont. Si vous saviez ce vieux l'adorateur de madame pour vous, vous aurez d'un seul coup et la femme et le mari.
C'est ce que nous appelons faire d'une pierre deux sous, dit Mistigris.
Ah, oh, ça, dit le peintre, vous avez donc vu le comte déshabillé, vous êtes donc son valet de chambre.
Son valet de chambre ? S'écria Oscar.
Dame, on ne dit pas ces choses-là de ses amis dans les voitures publiques, reprit Mistigris.
La prudence, jeune homme, est mère de la surdité. Moi, je ne vous écoute pas.
C'est le cas de dire, s'écria Schinner. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu hais.
Apprenez, grand peintre, répliqua Georges sentencieusement, qu'on ne peut pas dire de mal des gens qu'on ne connaît pas, et le petit vient de nous prouver qu'il sait son Sérisy par cœur. S'il nous avait seulement parlé de madame, on aurait pu croire qu'il était bien avec.
Pas un mot de plus sur la comtesse de Sérisy, jeunes gens, s'écria le comte. Je suis l'ami de son frère, le marquis de Roquerolles. Et qui s'aviserait de mettre en doute l'honneur de la comtesse, aurait à me répondre de ses paroles.
Monsieur a raison, s'écria le peintre, on ne doit pas blaguer les femmes.
Dieu, l'honneur et les dames, j'ai vu ce mélodrame-là, dit Mistigris.
Si je ne connais point Mina, je connais le garde des Sceaux, dit le comte en continuant et regardant Georges.
Si je ne porte pas mes décorations, dit-il en regardant le peintre, j'empêche d'en donner à ceux qui ne les méritent pas. Enfin, je connais tant de monde que je connais M. Grindot, l'architecte de Presles. Arrêtez, Pierrotin, je veux descendre un moment.
Pierrotin poussa ses chevaux jusqu'au bout du village de Moissel, où il se trouve une auberge à laquelle les voyageurs s'arrêtent. Ce bout de chemin se fit dans un profond silence.
Chez qui va donc ce petit drôle-là ? Demanda le comte en amenant Pierrotin dans la cour de l'auberge.
Ben, chez votre régisseur.
C'est le fils d'une pauvre dame qui demeure rue de la Cerisaie et chez qui je porte bien souvent du fruit, du gibier, de la volaille, une madame Husson. »
Et qui est ce monsieur ? Vint dire à Pierrotin le père Léger quand le comte eut quitté le voiturier.
Bah, j'en sais rien, répondit Pierrotin. Je le conduis pour la première fois, mais il pourrait être quelque chose comme le prince à qui appartient le château de Maffiez. Il vient de me dire que je le laisserai en route. Il ne va pas à l'Isle-Adam.
Pierrotin croit que c'est le bourgeois de Maffiez, dit à Georges le père Léger en rentrant dans la voiture.
En ce moment, les trois jeunes gens, sots comme des voleurs pris en flagrant délit, n'osaient se regarder les uns les autres et paraissaient préoccupés des suites de leurs mensonges.
« Voilà qui s'appelle faire plus de fruits que de besogne, » dit Mistigris.
« Vous voyez que je connais le comte, » leur dit Oscar.
« C'est possible, mais vous ne serez jamais ambassadeur, » répondit Georges. « Quand on veut parler dans les voitures publiques, il faut avoir, comme moi, le soin de ne rien dire. »
Le comte reprit alors sa place et Pierrotin marcha dans le plus profond silence.
« Eh bien, mes amis, » dit le comte en atteignant le bois carreau, « vous voilà muets comme si nous allions à l'échafaud. »
« Mais il faut avoir ce traire à propos, » répondit sentencieusement Mistigris.
« Il fait beau, » dit Georges.
« Quel est ce pays-là ? » dit Oscar en montrant le château de Franconville qui produit un magnifique effet au revers de la grande forêt de Saint-Martin.
« Comment ? » s'écria le comte. « Vous qui dites aller si souvent à Presles, vous ne connaissez pas Franconville ?»
« Monsieur, dit Mistigris, connaît les hommes et non pas les châteaux. »
« Les apprentis diplomates peuvent bien avoir des distractions, » s'écria Georges.
« Souvenez-vous de mon nom, » répondit Oscar furieux. « Je m'appelle Oscar Husson, et dans 10 ans je serai célèbre. »
Après ces paroles prononcées avec forfanterie, Oscar se tapit dans un coin.
« Husson de quoi ?» dit Mistigris.
« Une grande famille, » répondit le comte, « les Hussons de la Cerisaie. Monsieur est né sous les marches du trône impérial. »
Oscar rougit alors jusque dans la peau de ses cheveux et fut travaillé par une terrible inquiétude. On allait descendre la rapide côte de la cave, au-delà de laquelle se trouve dans un étroit vallon à la fin de la grande forêt de Saint-Martin, le magnifique château de Presles.
Messieurs, dit le comte, je vous souhaite bonne chance dans vos belles carrières. Raccommodez-vous avec le roi de France, monsieur le colonel. L'Exerny Georges ne doivent pas bouder les Bourbons. Je n'ai rien à vous pronostiquer, mon cher monsieur Schinner, car pour vous la gloire est tout venon. Et vous l'avez certainement noblement conquise par d'admirables travaux, mais vous êtes tellement à craindre que moi, qui suis marié, je n'oserais pas vous en offrir à ma campagne. Quant à M. Husson, il n'a pas besoin de protection, il possède les secrets des hommes d'État, il peut les faire trembler. Quant à M. Léger, il va plumer le comte de Sérisy, je n'ai qu'à le prier d'y aller d'une main ferme.
Quand on prend du talon, on en saurait trop prendre, dit Mistigris.
Laissez-moi là, Pierrotin, vous m'y reprendrez demain, s'écria le comte.
Le comte descendit et se perdit dans un chemin couvert, en abandonnant ses compagnons de route à leur confusion.
C'est ce comte qui a loué Franconville, il y va, dit le père Léger.
Si jamais, dit le faux Schinner, il m'arrive de blaguer en voiture, je me bats en duel avec moi-même. C'est aussi ta faute à toi, Mistigris, ajouta-t-il en donnant à son rapin une tape sur la casquette.
Oh, moi qui n'ai fait que vous suivre à Venise, répondit Mistigris,
Mais qui veut noyer son chien l'accuse de la nage.
Savez-vous, dit Georges à son voisin Oscar, que si par hasard, c'eût été le comte de Sérisy, je n'aurais pas voulu me trouver dans votre peau, quoiqu'elle soit sans maladie.
Oscar, en pensant aux recommandations de sa mère que ce mot lui rappela, devint blême et se dégrisa.
Vous voilà rendu, messieurs, dit Pierrotin en arrêtant à une belle grille.
Comment nous y voilà ? Dirent à la fois le peintre Georges et Oscar.
Voilà une sévère, dit Pierrotin à sa messieurs. Aucun de vous n'est donc venu par ici, mais voilà le château de Presles.
C'est bon, l'ami, dit Georges en reprenant son assurance.
Je vais à la ferme des Moulineaux, ajouta-t-il, en ne voulant pas laisser voir à ses compagnons de voyage qu'il allait au château.
Eh bien, vous venez donc chez moi, dit le père Léger.
Comment cela ?
Je suis le fermier des Moulineaux.
Et, colonel, que nous voulez-vous ?
Goûtez à votre beurre, répondit Georges en saisissant son portefeuille.
Pierrotin, dit Oscar, remettez mes effets chez le régisseur, je vais droit au château.
Là-dessus, Oscar s'enfonça dans un petit chemin, sans savoir où il allait.
Monsieur l'ambassadeur, cria le père Léger, vous gagnez la forêt. Si vous voulez entrer au château, prenez la petite porte.
Obligé d'entrer, Oscar se perdit dans la grande cour du château, que meuble une immense corbeille entourée de bornes réunies par des chaînes. Pendant que le père Léger examinait Oscar, Georges, que la qualité de fermier des Moulineaux prise par le gros cultivateur avait foudroyé, s'évada si lestement qu'au moment où le gros homme intrigué chercha son colonel, il ne le trouva plus. La grille s'ouvrit à la demande de Pierrotin qui entra fièrement pour déposer chez le concierge les 1000 ustensiles du grand peintre Schindler. Oscar fut abasourdi de voir Mistigris et l'artiste, les témoins de ses bravades, installés au château. En 10 minutes, Pierrotin eut fini de décharger les paquets du peintre, les affaires d'Oscar Husson et la jolie mallette en cuir qu'il confia mystérieusement à la femme du concierge. Puis il retourna sur ses pas en faisant claquer son fouet et reprit le chemin de la forêt de l'Isle-Adam en gardant sur sa figure l'air narquois d'un paysan qui calcule des bénéfices. Rien ne manquait plus à son bonheur, il devait avoir le lendemain ses 1000 francs.